si les derniers retardataires veulent bien retourner s'asseoir. Une annonce de Jean-Michel.
Oui, je vous rappelle que vous pouvez aider un petit peu le Grémos en approvisionnant la petite boîte qui est vers la porte, vers la table d'entrée. Merci.
Bien, nous poursuivons donc l'après-midi avec cette deuxième partie qui est ouverte par Antoine Vernet. Alors, Antoine Vernet a été étudiant dans cette université. Et nous a maintenant quittés, malheureusement, pour rejoindre donc le laboratoire Triangle, où il poursuit des recherches sur les questions d'enseignement professionnel. Donc il est doctorant pour aboutir à une thèse d'ici un an.
Deux ans,
voilà. Il a récemment fait une intervention à une journée d'études doctorales franco-suisse à Lyon sur acteurs, réseaux et enjeux des systèmes locaux de formation professionnelle. Et il va nous entretenir également de formation professionnelle avec sa communication du développement économique à la lutte pour l'emploi, la formation en région stéphanoise, donc toujours dans les années qui nous occupent, 1964-1982.
Merci beaucoup. Donc, simplement pour mettre au point un petit peu le concept de formation, ça va être une idée très large, très, très extensive, qui va à la fois concerner enseignement professionnel, technique, apprentissage, enseignement supérieur à vocation professionnelle, type école d'ingénieur, formation continue, promotion sociale. Donc vraiment une vision très, très large des domaines de la formation. Alors, sur le cadre chronologique, déjà je vais faire un petit rappel sur une vision un peu partagée sur le département de la Loire. Au niveau social et économique, on est avec un département, une région qui est quand même dans la moyenne, on va dire, au niveau des chronologies. La Loire est rarement en avance sur les chronologies nationales, à part pour les crises économiques qui tendent à se développer légèrement en avance. C'est bien la seule chose sur laquelle on puisse être en avance sur le reste du pays. Donc, sur le cadre chronologique, j'ai choisi 64-82 pour une manière nominale, mais en fait, Si on est sur une étude autour de la pensée de crise, la manière dont la pensée de crise s'est développée dans la région stéphanoise, il faut remonter en fait 10 ans en arrière. Il faut partir des années 53, 54, 55, avec un premier épisode de crise économique dans le bassin qui va enfin voir les acteurs locaux se mobiliser et tenter justement d'intervenir sur la question du développement économique. Il y a eu l'épisode de 54-55, avec ce qui a précédé le comité d'expansion, et avec des mots d'ordre à l'époque, tels « La Loire, elle aussi veut vivre, laisser les hommes, mais amener les machines », qui était une formule d'un syndicaliste FO. Et donc, le comité d'expansion va se mettre en place pour justement tenter de trouver des solutions pour redévelopper économiquement la région. Les réseaux catholiques vont avoir leur influence, notamment économie et humanisme, qui a quand même une certaine origine dans le développement des comités d'expansion. Et donc, à partir de ce moment-là, on a une reconnaissance difficile, enfin, de l'obligation de modifier les structures de l'économie régionale. Et ça se traduit par la mise en place de différents organismes. Un organisme pour l'expertise économique et sociale, qui est le CRESAL. Et également, je vais en reparler, un organisme pour développer la formation en région stéphanoise, qui est le CIPL. Donc, dans le cadre français, on a souvent eu le mythe de la formation comme un remède au temps de crise. Et donc, on va se poser la question de l'efficience de la formation dans l'optique du développement économique et voir dans le cadre stéphanois comment les acteurs locaux s'emparent de l'enjeu de formation pour intervenir sur l'économique. Et donc, mon intervention va retranscrire finalement deux grandes périodes, 1964-1973, où l'enjeu du développement économique est largement affirmé, et 73-82, où finalement c'est vraiment la lutte contre la crise économique, la recherche, la lutte pour l'emploi qui va mobiliser toutes les politiques appliquées au niveau régional. Donc, assez rapidement, je vais faire un petit rappel sur les mutations de l'enseignement technique public. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y en aurait pour des heures. Donc, rappeler simplement qu'il y a un phénomène de massification des effectifs. Les réformes Berthoin, Fouchet, Abi participent justement à cette massification du technique. La scolarité s'est allongée à 16 ans. ce qui pose assez rapidement un problème de locaux qui existait déjà avant cette période. Mais là, on ne peut plus refuser d'élèves. Le technique n'est plus un enseignement sélectif. Donc il faut construire des établissements scolaires, ce qui est toujours compliqué pour les questions de normes et également les contraintes de la planification qui existent à l'époque. Et l'administration impose relativement ses vues aux municipalités à l'époque. Le problème du coût est aussi important. C'est toujours plus cher d'aménager un atelier de chaudronnerie qu'une salle d'histoire-géographie. Donc on peut comprendre aussi que les ateliers de mécanique, même à la fin des années 70, on trouve encore les tolimeurs comme instrument de base de la formation des mécaniciens, même si c'est quand même quelque chose de largement daté pour la technologie de l'époque. Donc cette insuffisance chronique des moyens financiers va se traduire par un mouvement de nationalisation des lycées. Jusqu'à cette époque, les écoles étaient municipales. Et d'abord, les plus petites villes du bassin, type Firminy, Saint-Chamond, Rive-de-Gier, vont demander, afin d'agrandir leurs propres écoles, la nationalisation et donc une convention entre l'État et les municipalités pour répartir les dépenses. Et ça va permettre justement de construire de nouveaux locaux, mais des locaux qui se révèlent très rapidement insuffisants aussi. Claude Lebois, 15 ans après l'ouverture de 61, on a déjà atteint le double de la capacité initiale, donc c'est vraiment quelque chose qui est un problème insoluble sur la question des capacités. Pour ce qui est des CET, plus tard des LEP, donc ce sont des établissements qui, dès le départ, sont gérés par l'État et qui sont souvent, par contre, en annexe des lycées techniques, donc ça pose toujours le problème de la concentration des élèves et des différentes sections dans les établissements. Sur la période, l'enseignement professionnel connaît une baisse générale du niveau, ça devient une voie de relégation, une voie de garage, l'échec scolaire se développe. De son côté, le technologique devient de plus en plus une étape vers des formations supérieures, les sections de techniciens supérieurs, les IUT, les écoles d'ingénieurs, et ça participe aussi de la vision nationale du plan de la formation des ingénieurs et de l'encadrement qui devient une vraie priorité dès même les années 50. De leur côté, enfin, l'apprentissage et la promotion sociale, qui longtemps ont été organisés par les municipalités, voire quelques exceptions pris en charge par les professions type imprimerie, automobile, les lois de juillet 71 vont finalement mettre fin à ces cours municipaux et les CFA gérés par des organismes privés vont donc se mettre en place pour les remplacer. Et pour la promotion sociale, on va aussi avoir les Greta qui vont prendre la place des municipalités. Du côté des écoles privées, donc assez rapidement aussi, on a une contraction des activités des écoles techniques de garçons qui vont se resserrer vers la métallurgie et la mécanique, éventuellement vers l'électronique aussi. Des nouvelles formations aussi qui s'ouvrent, les BEP, les bacs techno, les BTS. Du côté de l'enseignement féminin, l'enseignement ménager, les formations textiles ont tendance à disparaître, remplacées par des formations sociales et sanitaires et un essor encore plus grand des formations commerciales. On a également sur la période une importance réelle des cours privés de secrétariat de comptabilité à Saint-Étienne. Et pour le textile, l'école d'ourdissage du comité d'apprentissage du textile ferme en 63 et le parc des machines est transféré dans le nouveau CET de Roche-la-Molière. Et donc rappeler simplement rapidement le cadre de la loi Debré qui permet aussi de passer des contrats entre les établissements privés et l'État. Donc sur la période, on a une véritable recomposition du rôle des acteurs professionnels. De manière historique, dans les établissements techniques, les représentants des employeurs et dans une moindre mesure ceux des employés participaient aussi à la gestion et aux décisions de ces écoles. Donc simplement imaginer que dans un conseil d'administration ou un conseil de perfectionnement, on pouvait avoir à la fois les cadres et les salariés d'une même entreprise. Ça a été notamment souvent le cas de la CAFL à Firminy ou à Saint-Chamond. Les choses vont changer à partir de 1968. Le technique est complètement aligné sur l'enseignement secondaire et on va fermer les conseils, on supprime le conseil de perfectionnement et le conseil d'administration ne comprend plus de représentants des mondes professionnels mais simplement des personnalités qualifiées qui sont cooptées par le conseil. Donc on a là une rupture du lien fondamental qui existait entre les établissements publics et les professions et simplement la recherche de taxes d'apprentissage finalement plus tard motivera encore le maintien de ces relations en grande partie au niveau local. Enfin, dernier point, une instance centrale dans l'organisation locale de l'enseignement technique, qui s'appelait le comité départemental de l'enseignement technique, qui depuis les années 20 gérait les questions telles que les exonérations de taxes d'apprentissage, les subventions aux écoles, l'ouverture des sections, le suivi des effectifs et de la réussite aux examens. Dans l'application des lois de juillet 71, on va transformer ces CDET en CODEF, et donc les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. on est dans le cadre de la régionalisation administrative, et donc finalement les prérogatives départementales sont complètement remises en cause. Le préfet Camus, en 72, définit le rôle du CODEF comme une question d'initiative, d'enthousiasme et de force. Donc ça laisse quand même clairement entendre que les décisions ne se prennent plus du tout au niveau départemental. Et c'est simplement gérer des choses très administratives, comme les exonérations de taxes d'apprentissage, les agréments d'apprentissage, la promotion sociale, auxquelles on rajoute aussi les statistiques de l'emploi. Donc il y a un sentiment de dépossession des acteurs locaux qui sentent qu'ils perdent complètement leur autonomie sur le technique. Mais on a aussi quand même, avec ces statistiques de l'emploi, une véritable compréhension du phénomène de la crise qui explose complètement à partir de 73 dans la région. Donc voilà, des mutations importantes qui permettent justement pour les acteurs professionnels d'avoir conscience de la nécessité des interactions entre la formation et le champ professionnel. Du coup, ces fermetures de l'enseignement technique vont permettre justement aussi de développer des initiatives pour les acteurs locaux, de nouvelles formes justement d'investissement dans l'information, hors notamment du cadre de l'éducation nationale, en tout cas avec une certaine autonomie. Donc cet espace des possibles est aussi permis par l'essor important des centres de gestion dans tout l'après-libération, qui se diffuse notamment dans les entreprises, ce qui explique de nombreuses modifications dans l'approche des industriels par rapport à l'objet formation. Donc, je peux citer par exemple le fait que les grandes entreprises type SFAC, CAFL, dès la fin des années 50, ferment leurs écoles d'apprentissage. Finalement, elles n'ont plus besoin d'avoir une main-d'œuvre qualifiée en nombre. Et l'enjeu, c'est ce que l'exemple de la CAFL est particulièrement éloquent à ce niveau-là, c'est plutôt la formation de la maîtrise. Dès 1956, la CAFL ouvre une école de maîtrise qui s'est appelée le CIPO, Centre d'information, de perfectionnement et d'orientation. Et donc de nombreuses formations du niveau maîtrise au niveau des ingénieurs, mais également des formations beaucoup plus appliquées aux ouvriers, type formation à la productivité, prévention des accidents du travail, afin justement de permettre de rationaliser la production et de permettre quand même un développement économique plus important au sein de l'entreprise. Donc on a d'autres exemples d'investissement des professions, donc à partir des centres de formation des apprentis, les CFA. Par exemple, le bâtiment, dès 1964, lassé de devoir attendre l'ouverture d'une école publique du bâtiment, ouvre son propre atelier-école pour former ses apprentis. Et la chambre de métier, à la suite de la fermeture des cours municipaux, va également ouvrir son propre CFA au Moulinier, qui connaîtra des difficultés importantes quasiment dès le départ, notamment du fait de l'arrêt des formations en apprentissage dans l'imprimerie, qui fait paraître une grande partie des revenus de taxes d'apprentissage qui étaient escomptés. Rapidement aussi, la chambre de commerce, qui, au bout de 130 ans d'existence, va enfin se lancer dans la formation. La prise de conscience est tardive, mais là encore, c'est la question de la gestion des entreprises qui impose justement l'ouverture d'une école dans l'ancienne condition des soies, qui ferme en 60 et donc à partir de 61, une annexe de l'école supérieure de commerce de Lyon et un institut supérieur de gestion commerciale pour former des techniciens supérieurs est ouverte et gérée directement par la chambre de commerce, avec des résultats plutôt intéressants d'après ce qu'en disent les coupures de presse. Mais surtout, on a de nouveaux acteurs de la formation qui prennent la place. Donc, dans la foulée du comité d'expansion de la Loire, vous avez, effectivement, j'en ai parlé, le Centre interprofessionnel de promotion de la Loire, le CIPL, créé en 1957, une association qui a toujours été associée au nom de Joseph Hoffmann, donc qui est un industriel, fils, frère et ensuite lui-même patron d'une entreprise de pièces détachées de cycle dans le quartier du Soleil à Saint-Étienne, qui a été également imprimeur, président du tribunal de commerce, de la chambre syndicale du cycle, etc., est toujours très intéressé par les questions de formation. Et à noter également que Joseph Hoffmann est très impliqué dans les réseaux, notamment les réseaux scouts en région stéphanoise, qui ont toujours eu leur importance pour expliquer aussi les réalisations en matière socio-économique. Donc, le CIPL réunit des jeunes industriels, des commerçants, des membres de professions libérales, conscients que l'investissement en cellules grises, donc en formation et éducation, était au moins, sinon plus, que l'investissement matériel. Donc, c'est une prise de conscience des PME locales de l'intérêt de la formation, et notamment de la formation supérieure et de la formation continue, dans un pays qui a longtemps été attaché à la figure de l'autodidacte. Et donc, on a véritablement, à partir des années 50, une remise en cause de cette croyance, justement, en l'autodidacte, au savoir-faire qui suffit, justement, à faire la réussite industrielle. Donc le slogan du CIPL, c'était « Au service des hommes et des entreprises ». Et donc, de nombreuses instances de formation vont être ouvertes. Dans un premier temps, un centre associé au CNAM, ouvert sur le site du lycée Mimar, en 1958. Des cours d'organisation du travail qui sont assurés par des moniteurs du bureau des temps élémentaires, à peu près à la même période. Et enfin, la première grande réalisation, c'est la mise en place d'une école d'ingénieurs de production pour la mécanique et la métallurgie à Saint-Étienne. Donc ça faisait à peu près depuis 1870 que les élites locales réclamaient une école d'art et métier qui évidemment n'est jamais venue. Et enfin, l'idée de réaliser une école en dehors du cadre justement des écoles d'art et métier pour la formation d'un niveau d'ingénieur de production va enfin se réaliser avec de nombreux responsables économiques locaux, le président de l'association des syndicats métallurgiques patronaux de la Loire, un ingénieur des constructions radioélectriques du centre et futur président du CRESAL, Georges Bermond, les ingénieurs de la CFL, d'EDF, directeur technique de Manufrance, etc. Donc le projet est particulièrement bien fait et l'administration finalement va l'accepter assez rapidement, notamment grâce à la collaboration de l'administration de l'École nationale professionnelle. Ensuite, d'autres réalisations sont faites, notamment en dehors du plan, qui n'est pas forcément simplement la seule manière d'obtenir des établissements scolaires. Les enjeux, enfin les volontés locales peuvent quand même s'appliquer avec beaucoup de volonté. Donc également des formations au brevet professionnel de la mécanique, des conférences, et après, à partir des années 64, on en trouve beaucoup plus des formations organisées directement par le CIPL, qui sont vraiment de la promotion sociale et de la formation continue. 64 pour le CIPL, c'est un tournant assez important. On a des représentants des syndicats de travailleurs qui sont intégrés au conseil d'administration, donc CGT, CFDT, FO, également CGC et FN qui sont intégrés. Mais jamais au niveau du conseil d'administration, par exemple, la CFTC ne sera jamais acceptée. La CFDT fera toujours en sorte que les membres de la CFTC ne puissent pas avoir un véritable pouvoir de décision au sein du CIPL. Donc un centre qui n'est ni un centre de formation patronale, ni un centre de formation ouvrier, c'est quelque chose vraiment entre les deux. Joseph Hauptmann déclare même en 1968, alors que le débat fait rage sur l'opportunité d'intervenir en entreprise pour former... pour faire des formations du personnel, notamment en 67-70, la direction de l'usine Peugeot Saint-Étienne demande une formation au CIPL et les syndicats freinent des quatre fers, justement. Ils veulent absolument que le CE soit d'accord et soit associé à cette décision. Donc Hauptmann déclare « Nous nous battons pour que la formation ne soit pas entre les mains patronales dans les organismes tels que le CEGOS ou le Centre d'études du Sud-Est et seulement dans un comité de perfectionnement que participent les syndicalistes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pratiquement pas voix au chapitre. » Donc une instance qui peut bénéficier à la fois aux PME et aux grandes entreprises régionales, hein, Creuse-Loire ou d'autres comme Casino vont également recourir aux prestations du CIPL. Et le cadre des lois de 71 va finalement changer un petit peu la nature de l'action du CIPL, qui va véritablement devoir prendre une place que la loi lui laisse, mais avec des concurrences notamment venues des syndicats patronaux qui est de plus en plus forte. Et après, je dois admettre aussi que le silence des archives commence un petit peu à pénaliser la vision qu'on peut en avoir. Vous avez d'autres organismes qui se mettent en place aussi, l'Institut d'administration et d'économie des entreprises, donc qui est en lien avec le CIPL, avec également les mêmes acteurs qu'on retrouve, du comité d'expansion, Rémi Anino aussi, donc toujours Joseph Hauptmann, etc. Donc là encore, certains syndicats sont associés à cette organisation qui... est là pour la formation en gestion commerciale et industrielle des cadres. Donc on va retrouver des syndicalistes CFDT, FO et CGC. Dernière instance importante, c'est l'Université de Saint-Étienne, qui est une véritable conquête voulue par les acteurs économiques locaux, à laquelle les hommes politiques tels Michel Durafour se sont aussi associés. Et donc, cette création d'un enseignement universitaire, finalement, elle va aussi permettre... de répondre à une réalité qui n'avait pas été remplie jusque-là, c'est la question de l'expertise locale. Et la constitution d'un corps universitaire à Saint-Étienne va quand même beaucoup changer le rapport à l'évolution sociale et économique du bassin. Donc pour terminer, je vais passer à la question de la formation et la crise. Donc 73 marque vraiment une rupture. De grandes entreprises commencent vraiment à être en difficulté. Le BTP est carrément sinistré. Donc une structure qui existe déjà, mais qui va prendre une importance nouvelle, c'est la FPA, la formation professionnelle des adultes. Donc il y a un centre de FPA à Saint-Étienne pour le bâtiment depuis 1945. Les sections des métaux s'ouvrent, elles, en 1963. Et ce sont donc des sections qui ont leur importance, même si les acteurs de l'enseignement et de la formation région stéphanoise regrettent justement que les employeurs ne fassent pas suffisamment appel à ces services. Le recours à l'AFPA va s'accélérer avec la mise en place du Fonds national pour l'emploi en 1963, avec l'objectif d'accompagner la reconversion des personnels d'entreprise en fermeture ou en restructuration. Donc le cadre de la reconversion des houillères s'inscrit totalement justement dans l'envoi des anciens mineurs dans des sections de FPA. Mais on va également avoir une ouverture de ces sections vers beaucoup d'autres entreprises. Et donc, des conventions sont passées entre le ministère du Travail et des entreprises telles BSN, Creuse-Loire, Casino, Gunter Royon, Forge Stéphanoise, Mavilor, etc. Donc, finalement, la crise de l'emploi devient l'objet principal de la question de la formation en région stéphanoise. Et les acteurs locaux se retrouvent dépossédés par tout un tas d'instances, de processus mis en place par les administrations. Donc je ne ferai pas la liste, mais imaginez effectivement que à partir de 1973, la formation n'est vraiment plus la priorité des acteurs locaux. L'emploi prend véritablement la place et on doit notamment former les jeunes non qualifiés qui sont particulièrement difficiles à insérer sur la scène professionnelle. Le directeur de l'UDFO, Maurice Piollet, remarque que la formation est de plus en plus manipulée au profit de l'emploi durant cette période. Et donc finalement, je vais faire très vite, l'avenir de la formation sur cette période n'est plus vraiment dans la formation, mais va s'ouvrir de plus en plus vers la recherche et s'ouvrir vers de nouveaux acteurs comme l'université, mais également l'école des mines qui enfin va aussi recommencer à avoir une influence au niveau local. Donc conclusion. La formation professionnelle, finalement, est le moyen de penser le développement économique pour les acteurs locaux. C'est le cas lorsqu'il y a une menace de crise, mais finalement, lorsque la crise est là, ce recours va disparaître totalement. Et pourtant, le besoin, l'intérêt d'investir dans la matière grise est quand même quelque chose qui est de plus en plus reconnu par les acteurs locaux. Donc on peut s'interroger aussi sur l'investissement des réseaux patronaux, sur la question des syndicats. FO n'a jamais pu jouer le rôle que l'administration aurait bien voulu lui donner. Et c'est souvent la CFDT qui va occuper ce rôle de pivot entre les milieux ouvriers et les milieux patronaux. Donc on peut s'interroger aussi sur les liens entre les catholiques sociaux et la question de la formation en région stéphanoise. Donc je citais les scouts, on peut penser aussi à la JOC, donc les réseaux jeucistes qui ont leur importance. Et finalement, c'est une période qui voit la transition d'une liaison université-industrie à la recherche d'une liaison formation-emploi qui va être la priorité des années 80. Donc la marge d'autonomie des acteurs locaux est finalement très réduite, que ce soit vis-à-vis de l'État et des corps administratifs, vis-à-vis aussi d'un échelon régional en constitution. Et également, on peut s'interroger sur l'intégration des acteurs syndicaux au processus, avec parfois une association, parfois une intégration totale, et parfois également une exclusion qui est forcément à remarquer. Je vous remercie.